Chapitre 43. Toutes ces manœuvres défensives que j'avais travaillées pendant cette dernière année, se baisser, esquiver, feinter, porter des coups, bien camper sur ses appuis, tenir une arme à bout de bras et appuyer sur la détente, courir, courir, et même chancelante d'épuisement, courir encore un peu. On était le 21 janvier. J'étais allongée dans l'obscurité, à moitié dans les vapes sur le parquet. J'entendais des cris, je sentais une odeur de poudre. Alors j'ai fait ce qui s'imposait. J'ai porté la bombe de glaçage à ma bouche et j'en ai pris une dose. Encore un coup de feu, puis trois ou quatre. J'ai avancé comme je pouvais, à quatre pattes, vers la mêlée. Des gémissements maintenant. J'ai découvert ma logeuse, Frances, par terre, à côté de moi. Roulée en boule, elle se tenait l'épaule. Je sentais du sang sur le parquet, mais dans le noir, c'était difficile d'y voir quoi que ce soit. « Aide-moi », a-t-elle gémi de nouveau. « Charlie, Charlie, aide-moi. » D'accord, d'accord, chut, du calme. Encore des ombres obscures qui tournaient autour de moi. L'une d'elles, imposante. Abigail, toujours le pistolet à la main, mais l'air moins sûr d'elle.
« Où es-tu ? »
a-t-elle crié. Le pistolet pointé, elle visait toutes les ombres tour à tour. Je me suis figée, parfaitement immobile à côté de Frances, car je n'étais plus certaine que ma propre sœur n'allait pas me tirer dessus. « Ça va ? » ai-je demandé d'une voix aussi posée que possible. « Abby ? »
« Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Je sais que tu étais de mèche avec elle ! Tu nous as lâchés pour elle, maman et moi. Très bien, si tu veux jouer à ça. »
D'un seul coup, elle s'est retournée vers moi, le doigt sur la détente. Je suis restée paralysée de stupeur une fraction de seconde avant d'avoir le réflexe de rouler sur le côté pour m'éloigner de Frances, vers le fauteuil à oreilles désormais vide. Je roulais encore quand Abigail a ouvert le feu. Je cherchais désespérément un abri, tandis que ma tante criait à l'autre bout de la pièce, derrière le trio de fauteuils le plus proche du bow window.
« Ce n'est pas de sa faute !»
s'écriait-elle d'une voix mal assurée.
« Elle ne savait pas. Je ne lui ai jamais dit. »
« Me dire quoi ? » ai-je répondu, même si j'avais le sentiment angoissant de savoir. Abigail a arrêté de tirer pour entendre la réponse de ma tante. Planquée derrière le fauteuil à oreilles, j'en ai profité pour jeter un œil dans la pièce et évaluer les possibilités qui s'offraient à moi. Frances était grièvement blessée et avait besoin de soins immédiats. Abigail était toujours dangereusement armée. Quant à ma tante, je ne savais absolument pas, mais il fallait agir vite.
« J'ai retrouvé votre mère dans le Colorado, » expliquait-elle.
Au son de sa voix, j'aurais dit qu'elle se déplaçait, sans doute pour mieux se mettre à couvert.
J'avais engagé un détective privé. Il avait réussi à la localiser. Tu avais 10 ans quand j'ai fait le voyage pour aller la voir.
Pourquoi ? J'étais estomaquée au point d'arrêter de surveiller Abigail et de me tourner vers la voix de ma tante. J'avais dû me redresser légèrement parce que Abigail a balancé un autre pruneau et je me suis vite baissée pendant que le bras du fauteuil volait en éclats à côté de moi. J'ai pris une nouvelle dose de glaçage.
« Je voulais lui parler de sœur à sœur, » a dit ma tante. « Elle t'avait maltraitée, sans compter ce qu'elle avait fait au bébé. Je ne sais pas ce que je m'imaginais, j'étais en colère. Avant d'appeler la police, je voulais lui parler, lui signifier ma façon de penser. »
Abigail avançait. Pas vers moi, mais vers la voix de ma tante. Je passais de nouveau rapidement les possibilités en revue. Le téléphone ? Trop loin pour l'atteindre sans danger. Des armes ? Elle m'avait pris la chaussette pleine de piles que j'avais dans la poche de mon blouson, mais j'avais encore le petit couteau fixé à la cheville et le stylo bille. Je n'étais pas certaine d'avoir l'estomac assez bien accroché pour poignarder ma petite sœur, aussi dérangée soit-elle. Il allait falloir me contenter du stylo bille.
« Tu es venue à notre appartement, » a dit Abigail d'une voix maintenant presque enfantine, tout en traquant notre tante dans le noir.
« Je ne savais pas que tu serais là. Je ne savais pas que tu existais. »
La voix de tante Nancy se faisait plus douce, plus lointaine.
Dans le rapport de police, rien ne laissait penser à un deuxième enfant.
Tout ce que je possédais, je le gardais dans un sac à dos.
Au moment même où Abigail prononçait ces mots, il résonnait dans ma tête. J'ai dit la fin de la phrase du bout des lèvres, si bien que nous l'avons terminée dans un silencieux unisson.
« Comme un bon soldat. »«
Quand je t'ai vue, » a continué ma tante, « je n'ai plus su quoi faire. J'avais un plan, j'allais me défouler sur ma sœur, lui dire ses quatre vérités, et ensuite j'appellerais la police qui l'embarquerait et la jetterait en prison pour le restant de ses jours. Elle ne méritait que ça. Mais elle savait. Chrissy savait exactement ce que je comptais faire et elle avait déjà un coup d'avance sur moi.
Des gémissements, derrière moi. Frances, de nouveau, suffoquée de douleur.
L'entendre m'a donné un coup de fouet. Nous ne pouvions pas rester là, coincés dans le noir, pendant qu'Abigail nous traquait avec un pistolet.
« Mais ensuite, je t'ai vu, » essayait d'expliquer ma tante à Abigail, et sa voix résonnait dans le noir.
« Et je n'ai plus su quoi faire. J'ai dit à Chrissy qu'elle était malade. J'ai exigé qu'elle se livre à la police. J'ai proposé de te recueillir, Abigail, de t'élever comme je le faisais avec Charlène. Mais Chrissy ne voulait pas en entendre parler. Elle m'a dit que je me trompais, que je n'avais rien compris. Qu'il y avait eu un petit ami dans l'état de New York. Que c'était lui qui avait poignardé Charlie, assassiné les bébés. Elle le fuyait depuis cette nuit-là et c'était pour ça qu'elle t'avait emmené Abigail et qu'elle voulait échapper à la police. Pour que ce petit ami ne la retrouve pas.
À l'autre bout de la pièce, j'ai vu Abigail se figer. Elle se rapprochait régulièrement de la voix de ma tante, cherchant une cible. Mais là, je l'ai vue hésiter. J'en ai profité pour retirer discrètement une de mes lourdes bottes.
« Sur le coup, j'ai failli la croire, »
murmurait ma tante.
Et là, Chrissy a éclaté de rire. Elle m'a regardée bien en face, et elle m'a dit que ce serait exactement l'histoire qu'elle servirait aux policiers. Et que pendant qu'ils se mettraient en quête du petit ami, elle demanderait à retrouver la garde exclusive de Charlie. Elle vous enlèverait toutes les deux et disparaîtrait. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ferait une chose pareille. Mais si, bien sûr. Drame et complot. Tout ce qu'elle aimait. Et tant pis si ça te faisait du mal à toi, Abigail, à toi, Charlie, ou à moi. Tout ce qui comptait, c'était que ça la serve, elle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, et elle m'a proposé un compromis. Si je n'informais pas la police que je l'avais retrouvée, je pourrais garder Charlie. Jamais elle ne me contacterait. Jamais je ne la contacterai. Nous partirions chacune de notre côté avec un enfant. À l'entendre, elle était généreuse, elle me rendait service. Et moi, je ne pouvais pas la laisser te reprendre, Charlie. Tu t'en sortais tellement bien. Tu avais des amis, tu étais épanouie, et moi, je t'aimais trop pour te renvoyer chez elle. Alors j'ai signé ce pacte avec le diable, Charlie. J'ai accepté ses conditions, Abigail. Je t'ai sacrifié pour pouvoir sauver ta sœur. Et j'espérais, tout au fond de moi, qu'un jour tu pourrais me pardonner. »
La voix de ma tante avait changé, pris un accent déterminé. J'ai compris trop tard ce qu'elle allait faire. Je me suis dressée trop tard derrière le fauteuil, à l'autre bout du long salon obscur. Au moment même où ma tante se levait de derrière le canapé et affrontait Abigail du regard.
« J'espérais, » a bravement murmuré ma tante, « qu'en tant que sœur, tu serais heureuse qu'au moins l'une de vous en ait réchappé. »
Abigail a soutenu le regard de ma tante. L'espace d'une seconde, j'ai cru que nous allions y arriver. J'ai cru que ma sœur... Elle a tiré. Son six-hour a sursauté. Ma tante a lâché un drôle de gémissement, a basculé légèrement sur la gauche en tendant une main comme pour se retenir. Abigail a visé une seconde fois et je lui ai lancé ma botte à la tête de toutes mes forces. Elle l'a atteinte pile au moment où elle appuyait sur la détente. Encore un hoquet de ma tante, et Abigail se retournait, pointait son pistolet sur moi. J'avais enlevé ma deuxième botte à grosse semelle, et je la lui ai balancée aussi. Je l'ai touchée à l'épaule, pas assez fort pour la blesser, mais ça l'a déséquilibrée. Il lui a fallu une seconde pour se remettre en position, et le temps qu'elle le fasse, j'ai attrapé trois coussins de canapé, et j'ai commencé à la bombarder avec. Elle a esquivé d'instinct, gauche, droite, gauche. J'en ai profité pour traverser la pièce d'un bond, pas pour m'éloigner d'elle, pour me rapprocher au contraire. J'ai sauté par-dessus la table basse, contourné le canapé fauve, je me suis faufilé tête baissée vers la zone de canardage. Elle a rouvert les yeux, son visage brillait, blême et stupéfait dans l'obscurité, et je suis tombée dans une nouvelle faille de mémoire. Un autre moment, un autre visage blême, une autre personne que j'avais aimée et que je voulais juste rendre heureuse. Mais ça ne suffirait pas, ça ne suffisait jamais. Elle me ferait du mal. Je me suis arrêtée à 30 centimètres de ma petite sœur et je n'ai pas bougé d'un pouce quand Abigail a braqué son six-hour sur ma poitrine, le canon chaud contre mon sternum, à bout touchant.
« Tu aurais dû me sauver », a-t-elle murmuré d'une voix rauque.
« Je l'ai fait. Je me suis sacrifiée pour toi. Plein, plein de fois, mais ça n'a pas suffi. Je t'aimais, Abby. Et si tu m'aimais, tu aurais dû être heureuse pour moi, comme l'a dit tante Nancy. »
« Je te déteste. Chut. »
La main de ma petite sœur tremblait. Puis son doigt s'est posé sur la détente. Alors d'un geste vif, j'ai attrapé le stylo bille en plastique coincé dans ma queue de cheval, et en le tenant horizontalement à deux mains, je l'ai abattu comme une barre de fer sur son avant-bras, juste au-dessus du poignet. Un vieux truc de barman. Pas impressionnant à raconter, pas impressionnant à voir, mais ça fait un mal de chien. Et ensuite le stylo coupe la circulation dans l'avant-bras et toute la main s'engourdit. Le poing de votre adversaire devient mou et inerte. La main droite d'Abigail s'est ouverte par réflexe. Elle n'a pas pu s'en empêcher et sa bouche a dessiné un O de douleur silencieux pendant que son Sig Sauer tombait par terre avec fracas. J'ai éloigné l'arme d'un coup de pied. Elle m'a balancé un coup de poing dans la tempe. Ensuite, elle m'est tombée dessus à bras raccourcis et je me défendais comme je pouvais quand la porte du jardin s'est brutalement ouverte et qu'un chien s'est rué dans la maison en aboyant comme un forcené, tandis qu'une voix de femme criait.
« Police de Boston ! Les mains en l'air !»
Je ne pouvais pas mettre les mains en l'air. Abigail, qui avait fait une croix sur son pistolet, avait pris ma gorge en étau. À mesure qu'elle serrait, 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 la pièce obscure devenait plus obscure encore. Mes mains s'agrippaient aux siennes, cherchaient une prise, s'efforçaient de trouver ses doigts, de les écarter de force, tandis qu'un feu d'artifice éclatait dans mon crâne. Elle avait une force phénoménale dans les mains. Elle ne cherchait pas seulement à m'asphyxier, elle faisait de son mieux pour me rompre le cou. En reculant, j'ai buté dans la table basse, perdu l'équilibre, basculé sur le côté.
« Arrêtez ! Police !»
Ma petite sœur était au-dessus de moi. Elle serrait toujours violemment ma gorge, les yeux remplis d'une jubilation presque démoniaque. Puis ses traits se sont brouillés. Et ce n'était plus ma sœur. C'était le visage de ma mère que j'avais en face de moi. Tout le monde doit mourir un jour. Courage. J'ai arrêté de m'agripper à ses mains et je me suis mise à me battre pour de bon. Direct, direct, direct dans les reins. Uppercut au menton, droite à la mâchoire, encore et encore. Frapper, frapper, frapper. Une année d'entraînement. Le combat de ma vie. Le monde sombrait dans les ténèbres pendant que ma petite sœur démente encaissait coup sur coup, avec une détermination inébranlable, des doigts qui ne quittaient pas ma gorge.
« Abigail Grant, capitaine O, écartez-vous immédiatement. Les mains en l'air. »
« Tirez !» exhortai-je intérieurement le commandant Warren. « Mais tirez donc !» Elle ne pouvait pas, évidemment. Abigail et moi formions un tout inextricable, ses mains autour de ma gorge, mes poings au creux de son ventre, deux femmes à bout, une forme monstrueuse. Et là, une fusée blanche et sable, tulipe, a surgi de nulle part pour se jeter sur le flanc découvert d'Abigail, en grondant, en jappant. Morsure de croc blanc, hurlement d'Abigail, enfin ma sœur a lâché ma gorge. Elle s'est écartée en chancelant et, tout en se relevant, elle a attrapé le petit corps volontaire de Tulipe et l'a lancé contre le mur du fond. Un glapissement, puis le silence. J'ai roulé sur le côté. Je voulais me lever. Je voulais m'en aller. Je rampais, plus ou moins, si on veut. Je n'arrivais pas à mettre mes mains sous moi. Je n'arrivais pas à aspirer de l'air dans mes poumons.
« Abigail Grant, les mains en l'air. Dernier avertissement. Cessez ou je tire. »
Tout le monde doit mourir un jour. Courage. Ma sœur s'est tournée vers Didi. Elle avait quelque chose dans la main, un objet qui ne s'y trouvait pas avant. Le couteau. Celui que j'avais à la cheville. Il avait dû tomber pendant notre lutte. Son regard s'est posé sur mon flanc dénudé et ça a été plus fort que moi. Je me suis figée. J'ai attendu qu'elle frappe. Du sang et du feu. Peut-être que nous attendions cela toutes les deux. Un compte à régler vieux de 20 ans. Je n'ai pas esquissé un geste pour me défendre. J'ai simplement regardé ma petite sœur. Souhaité de toutes mes forces qu'elle me regarde, qu'elle voie la grande sœur qui l'avait sincèrement aimée. « Ne fais pas ça !» La voix de Didi Warren, plus proche, mais aussi plus douce, comme si elle sentait le vent tourner. « Pose ce couteau, Abigail. Tu es policière, tu te souviens ? Arrêtez-moi. » Tu écrivais ça dans tes messages parce que tu sais bien ce qu'il en est. Il n'y a pas de fatalité.
Ma mère avait raison,
a murmuré Abigail à notre intention.
Les monstres sont partout. Ils viennent dans la nuit s'en prendre aux petits-enfants. Sur Internet, dans la rue, je les vois partout. J'ai essayé de me servir de ma plaque, de mon arme. Rien ne marche, les monstres. Notre mère, ils sont tous dans ma tête.
« Oh, pose ce couteau. Je vais t'aider. Ta sœur va t'aider. On peut arranger ça. » Ma sœur a regardé Didi. Elle a baissé les yeux vers moi. Ce moment. 20 ans pour en arriver là. Ma sœur a levé le couteau.
Je veux juste arrêter de souffrir, Charlie. Je veux juste la paix.
Toujours à terre, j'ai poussé un cri rauque. Le commandant Warren a sauté par-dessus la table basse. Abigail a plongé la lame dans son ventre et tiré vers le haut. Stupeur sur son visage blême. Puis elle a basculé vers l'avant. Elle est tombée à genoux. Et elle s'est effondrée. La voix du commandant Warren maintenant, plus forte, plus dure, qui demandait des secours immédiats, appelait des renforts. Je ne l'écoutais plus. Je ne me souciais plus d'elle. J'étais allongée par terre avec ma petite sœur. J'ai trouvé sa main dans le noir.
« 6 »,
a-t-elle murmuré d'une voix enrouée.
« Je t'aime, Abby. »
Elle a poussé un gémissement ensanglanté, sinistre, douloureux.
« Tout le monde doit mourir un jour. »
ai-je dit à ma sœur pendant ce dernier instant que nous vivions ensemble. Elle a serré ma main plus fort. J'ai serré la sienne en retour.
« Courage, Abby. Je t'aime. Courage. »